magazine des Nations Unies.
Bonjour et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Les réactions de la MONUSCO à l'agression du docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital général de Panzi à Bukavu, ainsi que la libération de 60 jeunes footballeurs kidnappés par le M23 à Rumangabo font l'actualité de cette semaine. Et pour la rubrique décryptage de ce dimanche, nous allons chercher à comprendre ce que signifie concrètement la résolution 1325 des Nations Unies. Après cela, nous irons dans la province de l'Équateur, visiter la prison Angenga, réhabilitée à 80% par le PNUD.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à votre magazine du dimanche. L'agression dont a fait l'objet le docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital général de Panzi à Bukavu le 25 octobre dernier, a constitué l'un des points abordés lors du point presse des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Pour le porte-parole de la MONUSCO, le docteur Mukwege est parmi les hommes qui font la fierté de l'Afrique et qui, par conséquent, devraient circuler dans ce pays en toute sécurité. Manoj Mounoubaï évoque ici les qualités de cet homme au micro de Jean-Pierre et Lali Ikoko.
Le Congo a un sous-sol et un sol très riche. Nous avons aussi des constructions qui font la fierté de l'Afrique au Congo, comme Inga, qui peut donner l'électricité non seulement à toute l'Afrique, mais aussi au sud de l'Europe. Mais il y a aussi des richesses dans ce pays qui font non seulement la fierté de ce pays, mais aussi de l'Afrique. Et je pense que Dr Mukwege fait partie de ce dont l'Afrique doit être fière. Docteur Mukwege, il est comme Docteur Luruma, je crois que ça, si je me rappelle bien de son nom, il est à mettre dans le camp des gens comme Cheikh Anta Diop, qui font la fierté de l'Afrique. Une personne de cette trempe devrait pouvoir marcher tout le long de ce pays en toute sécurité. On ne fabrique pas un Docteur Mukwege en 2 jours, en 10 ans. Voilà un monsieur pétri de nationalisme et de patriotisme. Voilà un monsieur qui aurait pu aller se faire de l'argent à l'extérieur de ce pays. Il est resté ici par patriotisme et par nationalisme pour travailler pour son peuple. Aujourd'hui, je pense que la meilleure protection que Dr Mukwege pouvait avoir serait qu'il serait entouré d'un mur pétri dans l'expression de l'horreur de l'acte qui a été commis contre lui. Nous devons, et je vous parle en tant qu'Africain, avoir le courage de protéger ce qui nous enchère. Ce n'est pas normal qu'une personne comme Dr Mukwege, qui passe ses jours et ses nuits pour aider nos sœurs, nos frères, nos mamans, puisse faire l'objet d'une telle attaque. Ça ne se justifie pas.
Pour sa part, le porte-parole militaire a annoncé la libération de 60 jeunes footballeurs venus de Beni et kidnappés par le M23 à Rumangabo. Une libération obtenue suite aux injonctions de la MONUSCO et aux bons offices des autorités locales. Écoutons donc le colonel Félix Bassé dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali.
Deux équipes de football, de jeunes de Beni, s'étaient rendues à Goma dans le cadre d'activités sportives, dans le cadre d'un championnat. Suite justement à ces manifestations sportives, ces deux équipes repartaient de Goma vers Beni. Arrivés à hauteur de Rumangabo, ils ont été kidnappés par des éléments du M23 et les ont amenés non loin de Rumangabo. Sitôt informés, les autorités provinciales, les autorités de la MONUSCO, la force de la MONUSCO se sont rapidement concertés et ont décidé de se rendre à Rumangabo pour essayer d'obtenir la libération de ces gens. Une fois à Rumangabo, ils ont pris contact avec les autorités aussi bien locales que les autorités coutumières de Rumangabo et les éléments du M23 en leur donnant des injonctions fermes concernant justement le kidnapping de ces footballeurs. Ils leur ont demandé de les libérer sans condition. Donc c'est suite pour parler mené par les autorités locales et provinciales et coutumières de Rubangabo et aux injonctions de la MONUSCO qui s'est déployée en force avec deux patrouilles mécanisées lourdement armées et pour dissuader toute tentative de commission de violation sur ces footballeurs, que finalement ces 60 footballeurs ont été libérés et ils ont été escortés en toute sécurité, premièrement jusqu'à Katale et ensuite jusqu'à Kiwancha. Nous les avons amenés au niveau de notre base opérationnelle et ils ont pu poursuivre leur chemin pour repartir à Béni.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Il y a 12 ans, donc depuis le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1325. Vous en avez probablement déjà entendu parler et aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce que signifie la résolution 1325. Et c'est à cette première question que répond Dominique Basinga, qui est conseiller en genre à la MONUSCO. Dominique, bonjour d'abord.
Bonjour madame.
Alors, c'est quoi la résolution 1325 ?
La résolution 1325 est incontestablement l'une des plus importantes résolutions des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est une résolution qui peut être résumée en trois P. La participation des femmes, la protection de leurs droits et la prévention des atteintes à ces droits. La résolution demande qu'on implique les femmes pleinement et entièrement dans toutes les étapes d'un processus de paix.
La 1325 porte une attention particulière sur l'impact des guerres sur les femmes et elle met également l'accent sur le rôle que ces dernières peuvent jouer en tant qu'actrices de paix. Concrètement, quel est cet impact et comment la femme peut jouer un rôle dans un processus de paix?
Je voudrais d'abord vous relever les impacts. La résolution 1325 a permis d'influencer énormément les politiques et les programmes des missions de paix et les politiques et les programmes des pays d'accueil. Pour vous donner quelques exemples, au niveau des programmes DDR des missions de paix, la 1325 a permis de faire modifier la prise en compte de la problématique des dépendants. Vous savez que la règle, c'est de une personne, un combattant, une arme. Mais derrière un combattant en RDC ici, vous avez 6 à 10 personnes, 6 dépendants. Et ces gens n'étaient pas pris en compte au départ dans les processus DD3R. Mais depuis que le plaidoyer a été porté au nom de la résolution 1325, les dépendants sont désormais pris en compte. Ça permet de bonifier et d'obtenir de meilleurs taux de rapatriement des combattants étrangers désarmés.
Concrètement, en des termes très simples, quel rôle peut jouer la résolution 1325 dans la protection des femmes et dans la prévention des conflits?
La résolution 1325 joue un rôle extrêmement important dans la prévention des conflits. Vous savez que naturellement, les femmes jouent un rôle de médiatrice. Elles résolvent les conflits au sein de la maison, de la famille, et c'est ce qu'elles font également entre les groupes combattants sur le terrain. Elles ont eu d'autres initiatives pour approcher les ambassades, les gouvernants des pays limitrophes, pour les interpeller sur la nécessité d'une paix dans la région des Grands Lacs. En tant que médiatrice, elles facilitent les solutions parce qu'elles sont les premières victimes de ces conflits.
En parlant de cet impact, nous savons que les femmes sont, comme vous venez de le dire, les premières victimes des conflits qui durent depuis plus de 10 ans en République démocratique du Congo. Par contre, de Sun City au processus de paix de Goma, on n'a pas vu les femmes qui sont les premières victimes jouer un quelconque rôle dans les accords de paix amorcés. Est-ce un problème de leadership de la femme congolaise elle-même ou simplement une option de la classe dirigeante qui ne laisse pas d'opportunité à cette femme?
Il y a un peu des deux. Il faut d'abord mentionner que l'article 14 de la Constitution reconnaît aux femmes le droit à la parité. Dans toutes les initiatives, dans tous les postes de représentation, la parité est clairement affirmée, mais avec un rythme d'application qui se veut graduel et raisonné. Malgré cet outil, effectivement, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Il y a eu les actes d'engagement qui ont été négociés. Le plaidoyer a fait pour qu'on les implique. Elles ont juste été admises en qualité de participantes observatrices. Et pourtant, sur le terrain, vous les trouvez en diverses qualités, comme combattantes, elles sont là comme des esclaves sexuels, elles sont aussi là comme des transporteuses de munitions. Elles jouent donc énormément de rôles qui ne sont pas reconnus formellement au niveau de ces groupes. Il est important que ces rôles soient reconnus pour qu'elle puisse être admise dans les processus DDR et prise en charge par ces programmes. C'est vrai que parfois, ces femmes n'ont pas conscience de toute la plénitude du potentiel que contient la résolution 1325. Elles ne réclament pas assez leur participation.
Puisque vous connaissez tous ces problèmes, que fait concrètement le bureau genre pour, de la MONUSCO pour que la 1325 soit effective en République démocratique du Congo?
Merci pour cette importante question. Le bureau genre, c'est en fait son mandat de mettre en œuvre la 1325. Avec cette 1325, le bureau genre a commencé à travailler en RDC depuis 2002. Depuis 2002, des progrès significatifs ont été faits au nom de ces 1325. C'est avec ces 1325 que les femmes ont été organisées et conduites à Sun City. Et alors, durant la transition, les négociations et les lobbying ont continué et ça a permis d'obtenir l'article 51 de la Constitution de la transition qui a affirmé pour la première fois en droit constitutionnel congolais le droit à la parité de ces femmes pour ces femmes et leur représentation équitable dans les institutions nationales, provinciales et locales. Puis de la Constitution à l'actuelle troisième Constitution de la République, l'article 51 a été consolidé sous la forme de l'article 14 et pour permettre d'affirmer maintenant très clairement la parité. Et ça, c'est un progrès au niveau du cadre juridique qui doit accompagner les efforts de femmes qui est incontestable. Ce que le bureau a fait d'important également, c'est de faire adopter un plan d'action national. À part le renforcement des capacités des femmes qui se fait tous azimuts depuis les provinces jusqu'au niveau des territoires et des districts, il y a eu un processus d'élaboration du plan d'action national qui a commencé depuis 2007 et qui a abouti en 2000 octobre avec l'adoption formelle par le gouvernement de la République démocratique du Congo, d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC.
Dominique Basinga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller en genre à la MONUSCO.
Merci, madame.
En bref, nous commençons par ces 40 maisons incendiées et plusieurs personnes tuées dans le village de Mutela, en territoire de Poueto, Katanga. C'est le résultat des affrontements survenus le 28 octobre entre l'armée régulière et un groupe Mai Mai. La situation sécuritaire encore précaire dans la région ne permet pas d'évaluer le nombre de déplacés selon OCHA. Autre déplacement des populations, c'est à Shabunda, au sud Kivu, où l'on signale des opérations militaires contre les Raia Mutomboki, précisément dans la région de Kigulube. Ces populations se seraient réfugiées dans le territoire de Walungu. Cette situation a également amené les contractants de l'Organisation des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS à suspendre momentanément les travaux de réhabilitation de la route Bukhale-Shabunda et à évacuer la région. Campagne contre la poliomyélite, 1 600 000 enfants d'au moins de 5 ans 9 mois ont été vaccinés du 25 au 27 octobre dernier dans les districts de l'Ituri et de la Tchopo ainsi que dans la ville de Kisangani en province orientale. Selon l'OMS qui donne cette information, les districts du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé n'ont pas été concernés par cette campagne de vaccination en raison de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est signalée dans ces secteurs. Enfin, sachez que la FAO va développer une filière de culture de soja dans la chefferie de Kaziba au sud Kivu. Objectif, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de la production agricole. Ce projet a été lancé officiellement vendredi 26 octobre dernier par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Du 23 au 25 octobre dernier et en marge des 10 ans de la naissance de la CPI, un colloque a eu lieu à Kinshasa. Le thème, le statut de Rome de la Cour pénale internationale 10 ans après, état de lieu et perspective pour la justice congolaise. Parmi les intervenants, Peter Deban, directeur du fonds au profit des victimes, une structure de la CPI, c'est donc lui l'invité de ce dimanche qui s'entretient avec Honoré Missinga. Suivez.
Monsieur Peter Deban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du fonds au projet des victimes à la CPI. Ça fait combien de temps que ce fonds existe et le pourquoi de ce fonds?
Le fonds existe déjà 10 ans. Il a été également créé par le statut de Rome à côté de la Cour pénale internationale. La raison d'être du fonds est que la communauté internationale a décidé de créer le statut de Rome avec deux dimensions judiciaires, donc une dimension de justice punitive et aussi une dimension de justice réparatrice au profit des victimes. Et le fonds est l'expression de cette volonté de la communauté internationale d'avoir un instrument dans le cœur du statut de Rome, d'agir au profit des victimes des crimes sous la compétence de la Cour pénale internationale.
Concrètement, ça se passe comment avec ce fonds?
Le fonds a été doté avec deux mandats principaux, un mandat de mise en œuvre des ordonnances de réparation de la Cour. L'autre mandat, le mandat d'assistance, est un mandat non judiciaire qui ne dépend pas des activités, des résultats des processus judiciaires et qui facilite que le fonds intervient au profit des victimes dans les situations reconnues par la Cour en donnant l'assistance physique, psychosociale et l'appui matériel pour les victimes et leurs familles et leurs communautés. Alors dans cet aspect, le fonds a travaillé déjà pendant 5 ans dans l'est de l'RDC, dans le district de Litori, dans la province de Sud et Nord Kivu, avec un engagement avec les victimes à travers des partenaires locaux et internationaux, un nombre total de plus de 40 000 victimes, avec des projets très ciblés sur les besoins des victimes de ce type de crime.
Pour atteindre les victimes, vous passez par des partenaires, les ONG notamment?
Effectivement, le fonds a une secrétariat qui est assez petite et le mot travail, c'est qu'on s'engage avec des partenaires locaux, internationaux, selon l'expertise qu'on en a besoin, pour fournir ce type de service, appui physique, psychosocial et appui matériel.
Le fonds a dû dépenser combien comme ça pour les victimes de l'Ituri, notamment dans l'affaire de Thomas Lubanga?
Dans l'affaire de Thomas Lubanga, ça revient à l'autre le mandat de mise en œuvre des ordonnances de réparation. Et là, on est seulement au début de le processus. On a vu la décision de la Cour en mois d'août sur les principes et la procédure des ordonnances de réparation. C'est une procédure qui est maintenant dans la phase d'appel. Et seulement après cette phase, il y aura plus de clarté sur le rôle du fonds au profit des victimes dans le développement et mise en œuvre des ordonnances de réparation au profit des victimes qui ont subi des préjudices à cause des crimes de M. Thomas Lubanga qui ont été relatifs à l'utilisation des enfants soldats.
Et donc il faut attendre la fin du procès pour mettre en bras le fonds.
Effectivement, oui, parce que les réparations sont liées à la responsabilité criminelle individuelle de M. Lubanga. Donc si jamais le cours d'appel décide que M. Lubanga devrait être libéré, avec ça, il n'y a plus de raison pour avoir des ordonnances de réparation. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas y revenir, donc il faut attendre un peu jusqu'au bout de ce processus-là pour commencer avec la mise en œuvre des réparations.
Et comment se passe concrètement l'assistance non judiciaire, oui?
Effectivement, on fait une évaluation de la situation sur le terrain. Et avec ça, on peut déterminer la valeur ajoutée de l'action du fonds au profit des victimes. Et comment on peut créer une dimension réparatrice avec les services qu'on met au profit des victimes, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut en sortir que avec des processus de réconciliation au niveau communautaire, avec le processus d'identification des victimes qui ont besoin d'une assistance au niveau individuel, l'assistance médicale, l'assistance psychosociale, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces victimes se trouvent améliorées dans cette position quotidienne et ont retrouvé leur dignité et une possibilité de regagner leur vie au niveau socio-économique.
Si je comprends bien, dans les procès en cours comme celui de Jean-Pierre Bemba, le fonds n'est pas actionné?
Non, pas encore. Mais c'est vrai qu'on est en train de lancer notre programme en République centrafricaine. C'est encore le programme sous le mandat non judiciaire, donc ne pas lié au processus contre M. Bemba forcément. Et l'action du fonds dans ce mandat peut se trouver dans tout le territoire de la République centrafricaine, comme c'est le fait aussi pour la République démocratique du Congo.
Alors qui contribue à ce fonds?
Le fonds est doté avec des contributions volontaires par des États, par des donations aussi qui peuvent provenir des sources privées.
Alors, comment voyez-vous l'avenir de ce fonds?
Bon, je crois, même après 10 ans, le fonds se trouve encore en état d'enfance. On a un acquis de travail déjà de 4-5 ans, ce qui est très important parce que c'est une expérience qui peut nous permettre d'améliorer notre action et de le présenter aux bailleurs de fonds pour y investir. Mais avec le mandat non judiciaire qui a été actif avec 4 ans, 5 ans, avec le mandat judiciaire qui reste encore à commencer, je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Le fonds est sans précédent, donc c'est quelque chose d'innovateur. Les années qui viennent vont donner plus d'articulation sur la dimension réparatrice dans le statut de Rome.
Donc c'est une expérience qui est unique pour la CPI.
C'est unique pour la CPI, c'est aussi unique dans le domaine de la justice internationale criminelle, pénale. Les autres tribunaux ad hoc et mixtes pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et autre part n'ont pas eu un fonds à côté de la cour du tribunal qui peut agir au profit des victimes. Donc l'action du fonds est sans précédent et c'est très important pour nous de développer le fonds, son action d'une façon crédible et avec des résultats tangibles pour les victimes et leur communauté. Mon ambition pour le fonds, c'est que effectivement on peut travailler avec une action tangible pour les victimes des crimes internationaux les plus importants, les plus graves, et qu'on peut achever une reconnaissance des victimes de ces crimes, ce qui est déjà important, mais à côté aussi d'avoir des résultats concrets qui peuvent donner l'espoir, la réhabilitation et la reconstruction de leur vie, ce qui est très important, et comme ça de développer dans une modèle de la justice réparatrice internationale.
Monsieur Peter Deban, merci.
Merci beaucoup.
Dans la rubrique Nouvelles de province d'aujourd'hui, nous allons dans la province de l'Équateur, précisément à Guémena, où le PNUD a procédé mardi dernier à la remise provisoire de la prison Angenga, réhabilitée à 80%, aux autorités locales du sud d'Ubangi. Les travaux de réhabilitation de cette prison ont coûté 164 000 $. Dominique Olombi Mungapani.
Construite en 1978, la prison Angenga de Guémena se trouvait dans un état de délabrement très avancé. Les conditions de détention des prévenus et des prisonniers était devenu déplorable. Presque chaque semaine, on y enregistrait des évasions. Avec le financement du PNUD, on a réhabilité la toiture, les cellules, les murs d'enceinte, les locaux du service pénitentiaire et on a construit des latrines et des douches. Selon les représentants de la MONUSCO Guémena, cette action des Nations Unies s'inscrit dans le cadre du projet d'appui conjoint à la transition à l'Équateur, PACTE. Elle a pour but d'appuyer l'autorité du Sud-Ubangi dans la lutte contre l'impunité dans ces districts où l'on enregistre beaucoup de cas de criminalité et de violences sexuelles. À la remise provisoire de cette prison, le commissaire de district d'ici Lubangui, Pierre Kamulete, a demandé aux Nations Unies de terminer son action avec la réfection des portes des pavillons, la construction des miradors et l'installation de l'électricité dans la prison. De son côté, l'autorité locale a promis l'augmentation des effectifs des policiers commis à la garde de cette prison, qui vont être désormais secondés par des militaires FRDC pour mettre fin aux évasions des détenus. Pierre Kamulete a aussi émis le vœu de voir fonctionner les services sanitaires de la prison en vue de soigner les maladies mineures des détenus sur place au lieu de les référer toutes à l'hôpital. Mbandaka, Dominique Wolombi Mungapangi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Mon nom est Gustave Lima, marié et père de 3 enfants. Après mes études primaires, secondaires, j'ai passé un concours psychotechnique qui a été effectué par les experts français où j'ai été recruté dans les forces armées béninoises en 1981. De retour de mon stage d'une formation militaire en URSS, comme mécanicien avion, j'ai continué mes études de comptabilité de droit à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Toutes ces expériences m'ont permis d'être envoyé en mission au Libéria en tant qu'observateur militaire où j'ai effectué 1 an de service là-bas et j'ai plus pris contact avec les miliciens lors des désarmements et ce n'est qu'après ça que les élections ont eu lieu au Libéria. Après avoir terminé le Libéria, aussitôt j'ai trouvé un poste en RDC où j'ai été recruté comme logisticien UNV où j'ai conduit les élections au Katanga 2005-2006 et Vu mes performances en logistique, on m'a envoyé à Kinshasa, à Mission Support Center, où, lors des élections passées de 2011, j'ai facilité tous les mouvements des observateurs qui sont arrivés au Congo pour les élections, pour leur permettre de quitter Kinshasa et aller dans les provinces. Ce n'est qu'après ça qu'on m'a envoyé en Bandaka ici, depuis mars 2012, où je suis pour pouvoir jouer le rôle de Logops assistant. Je suis arrivé dans cette mission depuis le 22 avril 2005. En un mot, je suis devenu congolais. J'aime beaucoup la lecture. Et aussi, j'aime beaucoup prier. Je pratique Ekanka, qui est la religion de la lumière et du son de Dieu. Et j'aime beaucoup mettre surtout en pratique, tout au long de ma vie, deux lois qui ont été énoncées par Richard Maybury, je cite, « Respectez tous vos engagements », ça c'est la première loi, et la deuxième c'est « Ne portez atteinte ni aux personnes ni à leurs biens ». C'est ça, avec ça que je conduis ma vie, et je suis là en tant que logisticien pour servir tout le monde. Merci.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Mon nom est Gaylor Longo, je suis étudiant à l'Université catholique du Congo. Ma question s'adresse au FNIAP. Le monde a célébré le 11 octobre la Journée internationale de la jeune fille. Parmi les mots qui rongent la vie de la jeune fille ici en République démocratique du Congo et en Afrique, il y a les mariages précoces. Quelle est la politique du FINIAP en cette matière dans la planification familiale? Je vous remercie.
Gaylor Longo, merci pour la question. Restez branchés pour écouter la réponse que vous donne le coordonnateur des programmes du bureau décentralisé du FINIAP Kinshasa. Il s'agit du docteur Pierre Chamoul.
Pour les fonds des Nations Unies pour la population l'UNFPA, les jeunes constituent notre cible et les interventions que nous menons en faveur des jeunes portent essentiellement sur les questions liées à la sexualité précoce, les questions liées à leur santé de la reproduction, les questions liées à la paternité responsable, maternité responsable. C'est pour cela que les mariages précoces, ça fait partie d'un domaine que nous abordons, d'abord pour décourager, étant donné que pour nous, les mariages précoces, ça constitue même une violence faite à la femme, parce que quand on marie une fille avant l'âge majeur, donc qui pour le moment dans notre code de famille c'est 18 ans, donc c'est un mariage précoce, et en même temps c'est une violation faite à la femme. C'est pour cela que dans le cadre de notre intervention, nous faisons beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de sensibilisation avec les ONG, les associations de jeunes que nous avons regroupées en réseau pour pouvoir décourager ce genre de pratiques et en même temps les plaidoyer envers les législateurs, envers les hommes de droit pour que pareille situation soit découragée de la manière la plus forte possible.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Tous à vos agendas pour les rendez-vous de la semaine prochaine. D'abord à la police MONUSCO, deux dates à retenir. Mardi 6 novembre, cérémonie d'ouverture de la formation en police de proximité à Kananga, au Kasaï occidental. L'événement aura lieu au centre de Bakolé. Et vendredi 9 novembre, début d'une autre formation de base, cette fois-ci au centre de formation de Kasangoulou au Bakongo. Parmi les partenaires dans cette formation de base à Kasangoulou, le PNUD, programme des Nations Unis pour le développement. Enfin, à retenir aussi dans la même semaine, la Journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre. C'est le 6 novembre et le 7 novembre, ce sera la Journée internationale de l'écrivain africain. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine que vous pouvez réécouter à 19h03, heure de Kinshasa, mais aussi sur notre site internet radiotapi.net. Merci de votre fidélité. Jean-Pierre Elali et Honoré Missenga étaient au reportage sous la supervision de Nicole Ngakamadidi. Au micro, vous avez probablement reconnu la voix de Mireille Bukasa Mukendi que vous allez retrouver très prochainement, parce que dès la semaine prochaine, vous serez en compagnie de Honoré Missenga pour la présentation du magazine. Merci.